les choses qui changent juste pour une période, ça ne suffit plus. On est d'accord ? On ne pourra pas s'en satisfaire et je prie vraiment que vous sortiez de ce séminaire insatisfait. Ça m'embêterait que vous soyez rassasiés parce qu'il y a vraiment plus à rechercher. Amen ? Mais que vous ressortiez avec une bonne insatisfaction, cette insatisfaction qui vous pousse à chercher plus de la présence de Dieu, plus à réformer ce qui doit l'être pour lui être agréable, non pas par culpabilité, pour lui être agréable, c'est très différent. Jusqu'à ce que vous touchiez tout ce qui est écrit dans la parole. Amen. Moi, lorsque j'ai signé pour marcher avec le Seigneur, j'ai signé pour tout vivre. Or, nous devons reconnaître qu'une partie de notre christianisme ne marche pas. Il faut être honnête. Amen. Mais c'est certainement pas la parole de Dieu qui marche pas. Parce que Dieu, il n'a pas de problème. Il n'a pas besoin d'un psy, Dieu. Amen. Donc c'est à nous de réajuster en fonction de ce que le Seigneur va nous montrer. Je répète, sans culpabilité, il a été dit hier, Dieu donne à celui qui lui demande sans reproche. Amen. Donc ne nous plongeons pas dans une mentalité, ah, le frère il a prêché qu'il y a ça et ça qui ne va pas dans ma vie. Non, nous faisons juste un constat lucide en tant qu'église de Christ. Il y a des choses qui doivent être réformées, on ne peut pas les réformer par nos propres forces. Mais la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ni par puissance ni par force, mais par son esprit, le Seigneur peut faire n'importe quoi dans ma vie, dans ta vie. Alors je ne peux pas, c'est impossible ce matin. Je ne peux pas, c'est évident que c'est normal pour l'être humain sans Dieu. Mais je crois que nous avons Dieu avec nous. D'ailleurs, il est tellement près de nous qu'il est venu habiter en nous. Il ne peut pas être plus près. Amen. Donc tout est possible à celui qui croit. Amen. Nous avons vu dans le deuxième enseignement qu'il y a plusieurs sujets de réforme. Et les principaux sujets de réforme dont il est question dans Malachie, avant que vienne l'onction de rafraîchissement d'Élie qui elle-même est suivi d'une onction de puissance où il est dit le Seigneur il rentrera dans son temple et qui pourra rester debout dans sa présence. Je vous ai dit qu'on va avoir des réunions où personne ne va pouvoir rester debout, même le prédicateur sera allongé avec son micro en train de prêcher. Mais si on lit bien Malachie, il est dit qu'avant qu'il y ait ce rafraîchissement qui est suivi de cette onction de puissance, de prodiges et de miracles, Dieu demande à son peuple de faire certaines réformes. Réforme au niveau des autorités. Je parlais avec un pasteur, je lui disais, on peut prêcher ce message justement dans la mesure où on se met les premiers à être ceux qui doivent être réformés. Dans ce sens, les gens ne se sentent pas accusés. Au lieu de pointer le doigt vers les gens et leur dire, les amis, vous devez changer, bien dit, les premiers qui devons changer, c'est nous. Et nous devons changer notre mentalité dont les gens sont prêts à accepter ce qu'on prêche, n'est-ce pas ? On en parlait à table hier, parce qu'on ne les accuse pas, on est les premiers à dire, j'ai besoin de réforme. D'ailleurs, on priait dans l'hôtel avec mon épouse et je lui ai dit, cette semaine, je vais réformer telle et telle chose. Je me suis relâché dans le parler en langue dans ma vie qui a changé tellement de choses. Et en préparant ce séminaire, j'ai reparlé en langue comme jamais auparavant. Alors, je parle tous les jours en langue, mais je sais qu'on peut passer du temps dans la présence de Dieu où on décolle littéralement comme avec un hélicoptère. Et on voit tous nos problèmes d'en haut. Et d'en haut, ils ont l'air tout petits. Houhou ! Amen ! Réforme dans la parole de Dieu nous a été donnée non pas pour nous asservir, mais pour nous libérer. Donc de réunion en réunion, on doit devenir meilleur si on entend et qu'on saisit aussi une parole qui nous rafraîchit. Alléluia, nous connaissons des milliers de chrétiens aujourd'hui asservis par des versets bibliques mal compris. Or la parole doit franchir. Le chrétien doit être la personne qui est le mieux dans sa peau sur cette terre. Amen. Or nous l'avons vu, une bonne partie des enfants de Dieu sont dépressifs. Et nous avons vu qu'une bonne partie des pasteurs et de leurs épouses sont dépressifs. Donc nous ne sommes pas le témoignage dont il est question dans Malachie, là aussi sans culpabilité, mais on veut que ça change. Le pasteur doit devenir un modèle, le serviteur de Dieu doit devenir un modèle qui peut dire à son Timothée, eh bien regarde ce que je fais, suis. Donc réforme au niveau des autorités, réforme au niveau de la parole et la manière de la porter, de l'interpréter. Réforme par rapport au culte. On a vu qu'à l'époque de Malachie, beaucoup étaient prêts à respecter leur gouverneur et ne faisaient pas la moitié pour Dieu. Au sein du corps de Christ, je crois, quelqu'un a fait une étude, qu'il y a 4% des gens qui donnent leur dîme. Vous imaginez, c'est ce qu'on pouvait faire pour sauver le monde si 100% étaient réguliers dans ce domaine-là. Les alliances impures, on a vu aussi que c'est bien l'unité, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on doit marcher dans la paix avec tous les frères et sœurs, mais on ne fait pas tous partie de la même tribu. Et on ne peut pas perdre notre temps dans toutes sortes d'alliances et toutes sortes de réunions d'unité. Il faut chercher l'unité de l'esprit. Et parfois, Dieu est obligé de diviser certaines choses pour produire son unité à nous, à lui. Amen. Parce que Dieu est un libérateur. Nous avons vu que la réforme, elle doit se faire, selon Malachi toujours, dans le cadre du couple. Il reproche le Seigneur à travers Malachi, eh bien, aux couples de se déchirer, aux femmes de pleurer bien souvent. Et nous rendons compte aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant de problèmes de couple au sein du corps de Christ et chez les serviteurs de Dieu. Là aussi, il y a quelque chose à réformer pour que nous soit envoyée l'onction d'Élie. Et nous avons vu hier aussi que c'est un processus normal qu'à travers l'onction d'Élie, le cœur des pères se tourne vers les enfants et le cœur des enfants se tourne vers les pères. Pourquoi ? Parce que les enfants, quand ils voient leurs parents changer, ils sont influencés par leurs parents. Et automatiquement, il y a réconciliation. Amen. Et réforme au niveau des finances aussi. Ça, c'est plus délicat. Mais c'est possible, même pour un Français. Alors, le message ce matin, ce sont les démarches de débabylonisation. Alors ça, c'est un mot que j'ai inventé, c'est dans le petit païen. Ne cherchez pas dans le dictionnaire normal. C'est simplement dans le petit païen. Se débabyloniser. Se débabyloniser, c'est une expression qui m'est venue pour définir le travail de réforme qui consiste à ôter de l'église ou de notre église locale des principes qui caractérisent le système babylonien. Il nous faut comprendre ce que représente bibliquement Babylone de peur d'avoir de sérieux ennuis dans les temps dans lesquels nous entrons. Car il est dit aux chrétiens de sortir du milieu d'elle de peur d'avoir part à ces maux. Alors ça ne veut pas dire aux chrétiens sortez des églises. Ça veut dire sortez d'une mentalité triquée. C'est pas pareil. Amen. De même qu'il y a une Jérusalem physique, il y a une Jérusalem spirituelle. Il y a une Babylone physique aussi et une Babylone spirituelle. Il est dit de Babylone dans Apocalypse 17:5. Quelle est la mère des choses viles? La mère, c'est-à-dire celle qui engendre, qui est à l'origine. Et l'histoire, en effet, nous enseigne que la première Babylone, qui était caractérisée par l'histoire de la tour de Babel, est à la base de toutes les fausses religions et des cultes idolâtres. De là se sont répandus ces cultes dans le monde jusqu'à nos jours. La plupart des cultes qu'on retrouve sur toute la terre trouvent leur origine à Babylone. Babylone, ça signifie porte de Dieu. Vous imaginez ? Dans l'esprit babylonien, se veut d'avoir le monopole de l'accès à Dieu. Alors nous savons qu'il y a une seule porte pour aller à Dieu, et cette porte s'appelle Jésus. Maintenant, il faut comprendre que Babylone, ce n'est pas seulement un lieu. Babylone, c'est un système. Un système est un système de pensée, un système de fonctionnement. Il peut être mis en action dans n'importe quelle structure, y compris dans l'église, y compris dans ta famille. Tu peux être un mari babylonien. Babylone peut se vivre dans l'église, dans notre famille, dans notre travail, dans notre ministère, puisqu'avant tout c'est un système. Lorsqu'une église adopte des principes babyloniens, elle mélange la présence de Dieu avec celle de l'adversaire. On retrouve alors un principe de gouvernement tyrannique qui utilise la manipulation, l'intimidation, le contrôle, la force pour diriger. Le premier dictateur, il s'appelait Nimrod. Il a fait construire la tour de Babel. Il voulait faire en sorte que tous les gens perdent leur identité dans sa vision à lui. Alors que nous, nous sommes appelés à permettre aux personnes de trouver leur propre vision et d'unir chacun leur vision à la vision d'un autre. Amen. À Babylone, tu perds ton identité pour l'intérêt peut-être du pasteur, l'intérêt de l'apôtre, l'intérêt de quelqu'un. Amen. Dans l'église, tu unis plusieurs identités épanouies, identités fortes, pour construire ensemble le corps de Christ. Babylone, c'est la centralisation du gouvernement de manière extrême et qui annihile notre opinion. C'est pourquoi on a prêché à Arles sur l'esprit de manipulation, sur l'importance, même dans un couple, que chacun développe sa propre identité. Babylone est bâtie sur le fait de dominer les autres pour tout ramener à soi, alors que l'église du Dieu vivant est bâtie sur le fait de libérer les autres pour tout ramener à Jésus. Babylone est bâtie sur la dureté et la cruauté, l'église du Dieu vivant est bâtie sur la douceur et la bonté. Babylone est bâtie sur un principe de prostitution à travers l'idolâtrie et l'utilisation de l'argent pour acheter, manipuler et asservir les gens. L'église est bâtie sur le principe du don et de la vérité non négociable. Amen. L'église, elle est bâtie sur l'utilisation de l'argent pour aider, bénir et honorer. On l'a mentionné hier soir lors de l'offrande. Babylone est bâtie sur un principe d'adultère, de débauche. L'église est bâtie sur la fidélité et sur la pureté. Amen. George Jeffrey, qui était un apôtre anglais, qui a établi des centaines d'églises, les églises Elim, puissamment utilisées par Dieu en Angleterre, vers 1920 à peu près. Après de nombreuses années, il a constaté que le système de gouvernement qu'il avait établi n'était pas selon Dieu. Il a décidé alors de le changer afin de libérer les églises de ce monde de gouvernement babylonien, comme il le qualifie lui-même. Un jour, il a eu une vision, le Seigneur lui a dit « C'est super ce que tu as établi. Et j'étais avec toi pour établir une bonne partie de ce que tu as établi. Mais tu as fait une partie avec la chair, parce que simplement tu as suivi les modèles que tu avais. » Et je voulais te dire que ce que tu as édifié, c'est selon un système babylonien. Et cet homme qui était sincère, il a voulu tout réformer. Alors il a décidé de libérer les églises qui étaient sous sa dépendance, tout en continuant à travailler avec ces églises-là. Eh bien, vous voulez savoir le plus fort ? C'est que les gens, ils n'ont pas accepté cette réforme. Ils n'ont pas compris que c'était pour leur bien. Ils se sont opposés à cette réforme, si bien que cet homme qui avait créé ce mouvement, pour être fidèle à ses convictions, il a quitté ce mouvement qu'il avait créé lui-même. Vous savez qu'on s'habitue à être asservi. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on est libéré, on doit prendre ses propres responsabilités. On ne peut plus dire c'était la faute du pasteur, c'est la faute de mon mari ou c'est la faute de mon épouse. Je vois que vous suivez. Alléluia. Ce système qu'il avait établi faisait en sorte que les décisions concernant tant la marche spirituelle que les affaires matérielles étaient prises par un gouvernement centralisé. Ce qui entraînait que les églises n'avaient plus de vie ni de pouvoir de décision par elles-mêmes. Même si une église achetait un bâtiment, le bâtiment appartenait à l'organisation. Donc le gars avait peiné pour bâtir la propre vision que Dieu lui avait donnée. Il suffisait qu'un grand pont au-dessus de lui décide à la rigueur qu'il fallait le muter pour qu'il disparaisse. Il y a beaucoup de schémas qui existent et fonctionnent comme cela aujourd'hui. J'ai lu un jour la vision d'un évangéliste danois. Il a eu une vision vers 1928. C'était un bon cru à l'époque. Un jour, alors qu'il se rendait à une convention en vélo, il a été ravi en esprit. Si bien qu'il a continué à pédaler, il devait se rendre dans une ville particulière. Et quand la vision a terminé, il s'est rendu compte qu'il était 50 km après la ville, puisqu'il avait été ravi en esprit. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes ravi en esprit dans votre voiture ou en vélo, il y a un ange qui prendra la relève, vous n'allez pas avoir un accident. Et il a vu une grande croix dans cette vision, parce qu'il allait justement à un rassemblement de plusieurs dénominations et de toutes sortes de pasteurs. Et cette croix était une sorte d'immense prison, reconnaissable aux barreaux des fenêtres et à des cellules. Je le répète, mon ami Alain Sanzé dirait un immense goulag. Sur la branche verticale de la croix, une main avait écrit le nom de diverses églises protestantes et sur la branche horizontale, celui de l'église catholique. Qu'est-ce qu'on a vu l'autre jour ? Le réveil et la réforme que Dieu fait, ce n'est pas les protestants contre les catholiques. Ce n'est pas les catholiques qui sont Babylone et les protestants qui sont la pure église de Jésus-Christ. C'est partout où il y a des cœurs sincères, Dieu, il se lève un peuple. Alléluia. Ce n'est pas obligatoirement quitter des lieux ni quitter une église. C'est se lever pour Jésus. Est-ce que vous saisissez ? Souvent, on a fait quitter des églises aux gens pour leur faire construire notre Babylone. n'est pas notre message ce matin. Sur cette immense prison et ses cellules, il y avait une main qui écrivait des noms, les noms de diverses dénominations, je ne dis pas de toutes les dénominations, les noms de diverses dénominations chrétiennes et évangéliques. Et chaque cellule était pleine de gens qui criaient et qui voulaient sortir. Alors le Seigneur lui a montré la fin, le jugement de la grande prostituée, Babylone, et le ciel est devenu noir, les éclairs tombaient partout, et soudain, dans un bruit terrifiant, le feu du ciel est descendu et a détruit en un instant le bâtiment en forme de croix. Bouleversé, il a alors posé cette question au Seigneur, « Mais Seigneur, où est l'église ?» Et le Seigneur, en lui montrant ce bâtiment, lui avait montré aussi des verts pâturages dans lesquels broutait un troupeau de brebis. Le Seigneur lui a dit, « Mon église, elle est là. C'est ce troupeau de brebis. » Amen. Assurez-vous que, quel que soit le lieu où vous rendez un culte à Dieu, vous, vous vivez dans les verts pâturages. Et vous vivez dans la liberté de Dieu. Amen. Lorsque j'ai reçu d'écrire ce message, j'ai partagé aussi avec un de mes amis, Patrick Fontaine, et lui, il m'a partagé la vision qu'il avait eue alors qu'il était au bord de la mort. Il était tombé malade, et il a vu Jésus qui lui est apparu, et Jésus lui a montré le même genre de vision. Il a été sorti de son corps, et il s'est promené dans des quartiers où il y avait des noms d'églises. Et le plus fort, c'est que dans ce quartier, il a vu son église aussi. Vous imaginez le choc? Un pasteur évangélique, charismatique. Le Seigneur lui a montré que plusieurs choses qu'il avait faites étaient dans le plan de Dieu, et d'autres avaient été faites avec une motivation qui consistait à se servir soi-même et servir son propre ministère plutôt que de mettre son ministère au service du corps de Christ. C'est pourquoi je vous dis, ça commence par les autorités. Amen. Alors ça fait un choc, hein, quand vous êtes un bon évangélique, là, charismatique, et que vous dites, nous on a tout compris, les autres ils n'ont rien compris. Tu es saisi dans une vision, tu dis, oh, regardez Babylone, et d'un coup tu vois, centre chrétien souffle nouveau. Je vous l'ai dit, ce sont des messages sans concession. Vous n'auriez pas dû venir. Il y a la sortie de secours là à droite. Mais dans sa grâce, Dieu est en train de nous parler. Oui, bon. Il aime bien celle-là, Tony. Ça fait plusieurs fois qu'il me la passe. Alléluia. Alors, nous sommes appelés à débabyloniser. Vous savez, il y a quelque temps, on parlait de la tour Montparnasse à la télévision. Il disait qu'il fallait la désamianter. Mais il a été rajouté que ça allait être du boulot et ça allait coûter cher. Bien oui, ça va être du boulot de débabyloniser et ça va coûter cher. Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, voilà, c'est la même chose pour l'église. Il ne faut pas raser, ça ne sert à rien. On l'a vu hier, il faut bâtir sur les acquis du passé, garder le bon, alléluia, et se propulser, rejeter le mauvais, se propulser dans notre futur, parce que l'église a un futur glorieux, alléluia. Mais pas l'église babylonienne. La réalité du désir de changer de nombreux fonctionnements dans l'église ou les églises correspond à un réel besoin et ressenti dans nos cœurs. Maintenant, comme pour beaucoup d'autres messages, il y a un pas entre entendre ce matin, à la rigueur être d'accord ce matin, accepter et faire ce qu'il faut pour mettre en pratique. La plupart des gens qui ont accepté le message sur prophétiser sont loin de prophétiser régulièrement. Ceux qui ont accepté le message sur donner sont loin d'avoir fait du don un mode de vie. Il est important qu'une mise en pratique concrète suive toute nouvelle vérité que l'on embrasse, même si c'est progressivement. Alléluia. Parfois aussi, on veut tout changer du jour au lendemain, et c'est une autre erreur. Le Seigneur, il a dit que parfois, il faut laisser pousser le blé avec l'ivré et attendre le moment où il faudra arracher l'ivré. Alors attention, il y a un équilibre à trouver. Alléluia. Il faut transformer, il faut réformer ce que Dieu nous demande de faire, mais ça doit se faire progressivement. Amen. Donc mettre en pratique comporte toujours un risque. Ça sous-entend changer des choses, des habitudes, des traditions, sortir de certaines sécurités. Oh, Dieu nous visite hors de nos habitudes. Amen. L'autre jour, avec mon épouse, on a dit, tiens, on va aller faire les courses aujourd'hui. On va aller à un endroit où on n'est jamais allé. Ce jour-là, on a rencontré un frère qui allait à cet endroit aussi pour la première fois et qui voulait nous rencontrer depuis un moment. Quand j'ai décidé de sortir de mes habitudes, je suis rentré dans des plans de Dieu. Amen. Changer, réformer, ça signifie trouver de l'opposition vis-à-vis de ceux qui n'ont pas capté le message du Saint-Esprit et veulent, eux, rester dans Babylone. Ça signifie aussi risquer de se tromper. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Ils font la plus grande des erreurs, c'est de rien faire. Alors il vaut mieux que vous fassiez quelque chose et que vous vous trompiez régulièrement, ok, et qu'un jour vous arriviez quelque part, plutôt que vous fassiez partie de ces personnes qui ont tellement peur de se tromper qu'elles ne font rien du tout. Vous avez le droit de vous tromper, personne n'a le droit de vous juger si vous vous trompez justement parce que vous essayez de faire bien, amen. Et ne jugeons pas les gens parce qu'ils passent par une mauvaise phase, parce qu'ils sont malades, en disant il a certainement quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Peut-être que ça lui est arrivé justement parce qu'il a quelque chose qui va dans sa vie. Parce que justement, il s'est donné la peine de rechercher Dieu plus que la moyenne des chrétiens et il a trouvé le diable sur son chemin pour essayer de l'arrêter. Car la Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est facile de juger quelqu'un qui a attrapé le palu à Madagascar si on n'est jamais allé à Madagascar. Tu risques pas d'attraper le palu à Nice. Peut-être que tu as une maladie qui se voit moins, mais qui est pire aux yeux de Dieu. Il y a aussi le risque de tomber dans l'orgueil, de se prendre pour plus spirituel que les autres. Nous sommes ceux qui avons entamé la réforme. Et là, tu es en train de reconstruire Babylone ailleurs, seulement différemment, tu t'en rends pas compte. Dieu ne veut pas changer des organisations, il veut changer des mentalités. Alléluia. C'est une démarche qui touche et dépend en priorité des autorités, nous l'avons déjà vu, parce que c'est déjà la conception qu'elles peuvent souvent avoir de l'autorité qui a réformé pour commencer. Elles vont par rapport à une église évangélique classique devoir dépyramider, nouveau terme. J'ai dégraissé aussi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il faut trouver un équilibre entre débabyloniser et dégraisser. Vous savez, à Babylone, c'est la loi du tyran. Mais après, souvent, on a été dans certaines églises, on a subi la loi de certains tyrans. On a voulu devenir des charismatiques libres. On se retrouve dans des milieux où tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. On ne respecte plus aucune autorité. Et ça, c'est l'esprit grec. Donc, s'il faut débabyloniser, il faut aussi se dégraisser. R et accent grave, c'est E ou R, A, I, 2 S, E. Ça marche des deux côtés. Amen. Donc les autorités sont appelées à chercher à servir plus qu'à être servies déjà. Pour cela, elles doivent développer une identité, une assurance en Christ et dans les dons qu'il leur a donnés, qui les amènera à ne pas se sentir menacées par la levée des autres dans leur appel, dans leur identité, éventuellement même si les autres les dépassent. Jésus, il n'avait pas peur qu'on le dépasse dans les signes, les prodiges et les miracles, puisqu'il a dit « Celui qui croit en moi fera de plus grands miracles ». Il n'a pas dit, les amis, je m'en vais auprès du Père, et attention, hein, le premier qui fait plus de miracles que moi, il aura affaire à moi. Alléluia. D'un autre côté, les autorités doivent être aussi être assez fermes dans leurs convictions pour ne pas être emportés par la vague de la levée du peuple pour servir. Ils doivent veiller à ce que les choses se fassent selon les règles. Et de même, lorsque l'Esprit de Dieu se répand, le vin nouveau se répand, c'est super. Mais faites attention. Il y a beaucoup de gens qui passent aux deux esprits continuellement sans s'en rendre compte. Ils passent d'un esprit à l'autre continuellement sans s'en rendre compte. Un jour, ils vous donnent une bonne prophétie. Le lendemain, ils prophétisent inspirés par un esprit de divination. C'est courant chez les chrétiens. La sorcellerie charismatique. Vous allez me dire, est-ce que c'est bien biblique? Mais dites-moi, lorsque Pierre, il a reçu du trône de la grâce que Jésus était le Messie, Jésus lui a dit, tu as reçu ces choses non pas par la chair et le sang, mais par mon Père qui te les a révélées. Et le même Pierre, quelques heures après ou quelques jours après, la Bible ne précise pas, Il sort une autre déclaration à Jésus. Jésus se retourne vers lui et lui dit: arrière de moi, Satan. Wow! Est-ce qu'on est tellement plus malin que Pierre, vous croyez? C'est Kenneth Hagin qui dit que un démon a pour fonction dans le monde spirituel de refaire la voix du Saint-Esprit, justement pour tromper les chrétiens. Et chacun de nous, on s'est fait avoir régulièrement par ce démon, et ça doit encore arriver, jusqu'à ce qu'on parvienne à un certain degré de maturité pour discerner entre la voix du Saint-Esprit et la voix de la contrefaçon. Amen. Alors, quelle est la différence? Quelqu'un me dira. Le Saint-Esprit, il fera toujours en sorte de glorifier Jésus. Un esprit, il t'amènera toujours à glorifier l'homme, voire à te glorifier. Moi, ça ne m'intéresse pas que quelqu'un vienne, il m'impose les mains et me dise: oui, Dieu me montre, tu es le plus grand ministère. Non, garde ta prophétie pour toi. Il veut me manipuler. Il a décidé de me demander quelque chose, s'il me prophétise ça. Amen. On est là pour glorifier Jésus. Alléluia. Et puis on n'est pas là pour débiter 10 prophéties à la minute. D'ailleurs, tout ce que Dieu nous montre, il ne nous demande pas toujours de le dire. Je vais vous dire une chose même. La majorité de ce que Dieu nous montre, il ne nous demande pas de le communiquer. Dieu te montre des choses sur les gens pour que tu pries, pour que tu les aides. Et dans notre orgueil, souvent, on veut toujours donner une parole à l'un et à l'autre. Et on va voir tout à l'heure que ce n'est pas le but des ministères prophétiques. Vous me suivez ce matin? On continue? C'est trop tard maintenant, de toute façon je ne m'arrête plus. Il y a donc un équilibre à trouver. Dieu veut à la fois que les autorités soient respectées et il utilise l'autorité qu'il a donnée pour gouverner à certains oints. Il ne veut pas qu'on gouverne d'une manière tyrannique. Et il veut d'un autre côté qu'on utilise l'autorité qui nous a été donnée. L'Église n'est donc une tyrannie ni une démocratie. Quand on trouve cet équilibre, on trouve la forme de gouvernement de Dieu. En France, on est habitué à la démocratie et il n'y a rien contre la démocratie. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux sur Terre pour gérer un gouvernement humain, pour gérer un pays. Est-ce que vous me suivez? Mais l'Église, ce n'est pas un gouvernement humain. Et l'Église, ce n'est pas une démocratie. Les gens ne sont pas élus parce qu'on vote pour eux, ils sont élus parce que Dieu les a choisis et Dieu les a établis. On ne vote pas pour savoir qui sera l'apôtre demain. Lui, il a une bonne tête. Tiens, il ferait un bon apôtre. On reconnaît sur les gens l'onction qu'il leur a donnée. Et ça aussi, c'est une autre parenthèse à ouvrir. Si personne ne reconnaît l'onction que Dieu vous a donnée, n'insistez pas. Parce que votre don, il a été donné pour l'édification du corps. Vous avez été donné en tant que cadeau à l'Église. Amen. Ne devenez pas un cadeau empoisonné. Si les gens ont besoin de 15 jours pour se remettre chaque fois que vous leur prophétisez, mettez de côté votre don de prophétie, ou jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à maturité, ou bien ce n'est pas votre appel. C'est eux qui doivent juger. Amen. Parce que les dons ont été donnés pour bénir le corps. Donc des gens doivent se lever et dire: frère, j'ai été béni. Si vous êtes béni par les images, elle est pas mal celle-là. Vous voyez, il ne faut pas essayer de rentrer dans l'appel de l'autre. On a l'air malin. Il essaie d'être la girafe et d'un coup, il perd tous ses dons qu'il a reçus de Dieu en tant que lion. Il ne peut plus courir. Quand on essaye d'être l'autre et de rentrer dans l'appel d'un autre, on a l'air malin, voilà de quoi. On a l'air. Là, tu as fait fort, Tony. Hein? Dans le but des ministères apostoliques est d'aider les gens à devenir matures, trouver et exercer leurs dons, non pas garder les gens sous leur coupe, mais les aider à grandir. Avec la liberté de quitter notre Église, de nous quitter et d'aller rentrer dans leur propre vision. Comme on le voudrait pour nos propres enfants. Il n'y a pas à se sentir menacé. Amen. Tu te sens appelé à œuvrer dans un autre cadre qu'à souffle nouveau. Et tu as été formé à souffle nouveau, eh bien, ça ne pose aucun problème. Souffle nouveau, ce n'est pas le corps de Christ. C'est une des cellules du corps de Christ. Il y a beaucoup plus que ça. Amen. Nous sommes là pour bâtir le royaume de Dieu, pas pour nous bâtir un royaume. Tout royaume personnel devient une tour de Babel, et Dieu va semer la confusion dans toutes les tours de Babel, dans les temps dans lesquels nous sommes entrés. Amen. Et il nous donne du temps, là. Il y a un changement de mentalité, de fonctionnement qui doit intervenir chez plusieurs ministères. L'idée de que chaque ministère apostolique est de communiquer, écoutez bien, une part de son onction plus que juste faire le travail à la place des autres. Et je vais vous dire une chose, on démarre les séminaires comme cela, on parle beaucoup, Claude et Julia Payan, parce qu'il faut quelqu'un qui parte en tête, mais au fur et à mesure des mois et des années, ils vont changer de forme, ces séminaires. Peut-être nous, on va prendre de moins en moins de place au fur et à mesure que les gens se lèvent et que les ministères exercent. Parce que le but, c'est pas de, que Claude et Julia Payan soient toujours en avant, c'est qu'il y ait une équipe qui apprenne à fonctionner en même temps. Alors, aujourd'hui, on démarre avec des ministères qui sont en vue, avec les ministères qu'on a, mais je suis sûr que de mois en mois, les séminaires vont changer de forme et vont évoluer sur la complémentarité des ministères. Un prophète ne doit pas juste prophétiser pour servir de fenêtre aux autres chrétiens, même s'il y a des réunions comme cela, des réunions qu'on peut qualifier de réunions apostoliques, où quelqu'un prie sur les gens et prophétise, oui. Mais on ne doit pas faire que ça. L'idée première du ministère de prophète, c'est de propulser son onction prophétique sur les gens pour qu'ils puissent tous prophétiser. Le but du ministère de pasteur, c'est qu'il propulse sur les gens son cœur pastoral pour que chacun devienne le gardien de son frère. Je vais vous dire une chose, ça peut vous choquer. Quand une église parvient à maturité, vous savez quelle est la personne qui va faire le moins de pastorat ? C'est le pasteur. Quand une église parvient à maturité, il y a assez de gens qui se sont levés et qui ont reçu l'onction pastorale communiquée par le pasteur pour devenir le gardien de leur frère. Mais il faut parvenir à maturité parce que beaucoup de gens qui veulent être notre gardien, il ferait mieux d'être le gardien d'eux-mêmes d'abord. Alléluia! Un évangéliste ne doit pas seulement faire des campagnes d'évangélisation pour faire le travail que doit faire l'église, même s'il y a une part de cela dans son ministère. Mais amener les gens à évangéliser et leur communiquer son onction, parce que sauver les âmes, c'est pas juste témoigner ou avoir un programme d'évangélisation. On a tous essayé beaucoup de trucs qui n'ont pas marché, vous êtes d'accord avec moi? C'est recevoir une onction. Et quand tu as cette onction, parfois tu sais pas pourquoi, tu rentres boire un café et il y a quelqu'un qui se convertit dans le café. C'est pas toi qui es influencé par le café, qui rentre, tu ressors, tu as bu 3 whisky. C'est toi qui influences l'ambiance dans le café. Alléluia. Ouh. Allez faire un tour dans le café en sortant. Et voyez où vous en êtes spirituellement. Alléluia. Ouh. Souvent, les gens emmènent des personnes à l'église pour que le pasteur leur explique le message du salut ou prie pour elles. Combien de personnes viennent me trouver? Voilà, j'ai amené mon voisin. Est-ce que vous priez? Vous pouvez prier pour lui, mais c'est pas à moi de prier pour lui. C'est toi, avant même de le mener à l'église, qui aurais dû lui prêcher la bonne parole, lui faire du pastorat et l'amener tout près, le poisson tout pané. Qu'est-ce que tu me l'amènes avec les écailles et tout? C'est ton boulot. Un sachet cellophane. Eh oui, dès qu'on commence à débabyloniser, les gens, ils n'ont pas envie de faire ça beaucoup. C'est pour ça que beaucoup de gens sont déstabilisés quand on essaie de démarrer une église dans le cadre de l'œuvre Souffle Nouveau. Ben, on ne débarque pas pour vous faire le travail, on débarque pour vous dire que vous avez un appel, qu'il faut le trouver, qu'il faut vous mettre au travail. Les gens, ils n'ont pas été enseignés comme ça. Alors ils nous regardent avec des grands yeux, mais c'est vous l'apôtre, vous êtes sûr que vous êtes un apôtre? Ben oui. N'importe quel ministère, s'il n'engendre pas, quelle est la puissance de son onction? Faire une réunion où tout le monde tombe, où tout le monde crie, ben, gloire à Dieu. Mais s'il n'y a personne qui est engendré à la suite de ces réunions, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est tous excités et il n'y a pas d'avenir pour l'Église. Donc ça, oui, ça fait partie de l'onction, on est bien d'accord. Mais il y a un travail encore plus puissant de l'onction, c'est d'engendrer. C'est d'engendrer des gens qui vont aller même plus loin que nous. À commencer par nos propres enfants. Mais qu'ils aillent plus loin, qu'ils fassent plus de prodiges, qu'ils fassent plus de miracles, et ce que j'arrive pas à faire, bien qu'eux ils puissent le faire. Alors, ne travaillons pas seulement pour notre ministère, si nous voyons la gloire de Dieu se manifester comme nous le désirons, et je le crois, nous le verrons pendant notre génération, ok, mais si ce n'était pas le cas, eh bien au moins préparons le chemin pour qu'ils rentrent dans ce dans quoi nous on ne serait pas rentrés. Qu'ils puissent monter sur notre dos, alléluia, et sauter par-dessus le mur. Évidemment, c'est moins glorifiant pour son ministère personnel. Hein. Vous me suivez ce matin toujours? Un enseignant ne doit pas bourrer les gens de connaissances pour montrer tout ce qu'il sait, mais faire comprendre aux gens comment interpréter eux-mêmes la parole à la lumière du Saint-Esprit. On doit engendrer. On communique une onction générale de notre ministère auprès des autres, plus une onction spécifique pour ceux qui sont appelés au même ministère que nous. Est-ce que vous voyez la différence? On doit engendrer chacun une onction générale pour tous les chrétiens et une onction spécifique à ceux qui, dans l'église ou dans notre entourage, ont le même appel que nous. Le système babylonien, lui, ramène tout et fait tout tourner autour du ministère. Le serviteur de Dieu est alors conduit par son ego plus que par le désir de construire le corps de Christ. Il utilise les gens pour mettre en valeur son ministère au lieu de mettre en valeur son ministère pour servir les gens. Donc chacun de nous qui peut être dans le ministère déjà ou qui veut y rentrer ne doit pas garder l'onction pour lui-même, mais doit libérer l'onction pour que d'autres fassent même de plus grands miracles que comme Jésus. Alléluia. Pour, là j'ai parlé des ministères, pour les membres, bon j'ai pas trouvé d'autres termes, excusez-moi, je l'aime pas. Ceux-ci vont devoir se responsabiliser. Dans certains milieux, comme nous l'avons vu avec l'exemple de George Jeffrey, les gens veulent rester asservis alors que leur leader fait tout pour les aider à se lever. Donc s'il est vrai qu'il y a des leaders qui dominent et tyrannisent le peuple, il y a des leaders qui veulent libérer le peuple et le peuple ne veut pas se lever. Ça existe aussi. Essayer de faire lever une armée qui ne veut pas se lever, tu y perds ta santé. Il y a des tas de pasteurs très sincères qui n'ont pas du tout l'esprit babylonien et qui ont perdu leur santé à vouloir faire lever une armée. Dès qu'ils donnent une responsabilité à quelqu'un, ils pètent les câbles en 15 jours. Il est obligé, lui, de revenir sans arrêt pour boucher le trou. Là, on dirait qu'il prend trop de place, mais il demande à cœur pas prendre toute cette place. Beaucoup de gens trouvent une sécurité à ne pas avoir de responsabilité. Les titres attirent, mais pas la responsabilité. Or, le titre est donc l'auté est indissociable de la responsabilité. Et je vais très loin. Tu veux avoir des enfants? Est-ce que d'abord tu as accepté la responsabilité d'être père? Tous ces gens qui ont fait des enfants, c'est facile de faire des enfants, hein? Vous savez les faire. Ok? Mais tous ces gens qui ont fait des enfants, s'il avait fallu leur demander d'abord, est-ce que vous acceptez la responsabilité d'être père et la responsabilité d'être mère? Et si vous ne l'acceptez pas, vous n'avez pas le droit d'en faire. Tous les gens qui veulent servir dans l'église, tu veux être mari, tu veux être femme, est-ce que tu acceptes la responsabilité qui va avec cette autorité ou cette position? Tu n'acceptes pas? Eh bien, on ne te marie pas. La moitié des gens que j'ai mariés sont tous divorcés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je ne vais plus marier quelqu'un à la légère. Silence, dans musique. Allez, dans. Vous savez, si c'est le pasteur qui fait tout, quand il y a une erreur, c'est lui qui l'assume. Mais si chacun a une responsabilité, il doit l'assumer et assumer ses propres erreurs. Et là, on peut aller voir quelqu'un, lui dire, c'est à toi qu'on a confié ça. Donc si ça ne tourne pas, alléluia. Ça a démarré il y a très longtemps, vous savez. Lorsque Dieu a mis l'homme et la femme dans le jardin, la femme a chuté. L'homme, il a suivi. Et quand Dieu est venu trouver l'homme, il a dit, c'est pas moi, c'est la femme. Déjà, refus de sa propre responsabilité. C'est mal barré lorsque vous avez affaire à quelqu'un et qu'il commence à vous dire « c'est pas moi, c'est lui ». C'est mal parti pour le pastorat. La Bible dit par exemple que tous peuvent prophétiser. 1 Corinthiens 14, 31. Vous pouvez tous prophétiser, ce qui ne fait pas de chacun de nous quelqu'un qui a le ministère de prophète. Est-ce que vous voyez la différence ? La Bible dit ailleurs, justement, tous sont-ils prophètes ? Non, mais tous peuvent prophétiser. Le simple don de prophétie. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 8 que Dieu a donné tous les dons pour les mettre au service des autres. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, dont la participation de chaque membre du corps est réclamée. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir des réunions dans chacun de ces séminaires, et préparez-vous pour cet après-midi, ce sera une réunion où il y aura des témoignages pour clôturer le séminaire, où les gens peuvent témoigner, s'exprimer, communiquer l'esprit prophétique sous diverses formes. Et c'est souvent une réunion qui permet, qui aide à la percée. Donc la participation de chaque membre du corps est réclamée. Vous pouvez vous tourner vers quelqu'un et lui dire « ta participation est réclamée, cher frère ». Ma femme avait commencé à aider quelqu'un il y a quelque temps, là, et à cette personne, on était presque coupé en quatre pour elle, mais on lui a donné un créneau, des barrières qu'elle ne devait pas dépasser. On l'a invité chez nous à manger, on a essayé d'être sympa avec, mais dans la semaine, on a le plus fait pour cette personne, elle nous a téléphoné pour nous dire tout simplement, eh bien, ce créneau, il ne me convient pas. Eh bien, s'il ne te convient pas, nous, ça ne nous convient pas de s'occuper de toi. On a cru parfois qu'il fallait faire plus que ce que Dieu fait pour les gens, pour les aider. Alors nous devons faire notre part, mais rappelez-vous, il y a une part que Dieu seul seulement pourra faire. Et quand vous faites du pastorat, pasteur ou autre, rappelez-vous, ne rendez pas Dieu jaloux. Quand vous vous occupez des gens, quand vous vous occupez de l'Église, restez dans le cadre de votre sphère d'autorité, parce qu'il y a une sphère qui est l'autorité du Saint-Esprit. Et si vous rentrez dans cette sphère pour vouloir régler tous les problèmes de la personne, vous allez rendre jaloux le Saint-Esprit. C'est un peu comme le serviteur qui a envoyé Isaac pour lui chercher une épouse. Imaginez que quand il est allé chercher l'épouse, une fois qu'il a vu, il a dit « Oh, elle est pas mal la fille, hein ? Si je la gardais pour moi. » Et Isaac, il ne le voit pas revenir. Et je crois que certains serviteurs de Dieu, c'est exactement ce qu'ils font. Ils ont été envoyés pour s'occuper de l'épouse de Christ et ils la gardent pour eux. Parce que le pastorat est trop poussé. Je vois que ça parle à certains. C'est un bon point. Et croyez-moi, c'est le résultat de beaucoup d'erreurs, ce genre de message, de ma part. Alléluia, je peux avoir un petit alléluia. Non, pas pour les erreurs. Si je suis appelé à me lever pour chacun, pour participer, je suis appelé à le faire avec humilité, dans un bon état d'esprit. Ce qui caractérise la levée destructrice de plusieurs personnes, c'est qu'elles se lèvent pour impressionner les autres par leurs dons ou pour leur faire la morale. Quand tu aides quelqu'un, tu n'es pas là pour lui faire la morale. Il y a des gens dans les exhortations, on veut qu'ils les gardent pour eux. Il n'y a rien de plus désagréable que quelqu'un qui est supposé t'aider, il vient te faire la morale. Alors c'est bien d'aider les autres, mais il faut le faire dans l'esprit de Dieu, avec la sagesse de Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, ce qui va marcher pour un ne va pas obligatoirement marcher pour l'autre. Les gens sont différents. Débabyloniser une église ou une œuvre ne peut se réussir que si les autorités font leur part et les membres font la leur. Chacun doit assumer sa responsabilité là où il se trouve. Nous voulons lever des gens qui expriment à leur niveau l'onction pastorale, d'enseignement, d'évangélisation prophétique, en devenant les gardiens de leurs frères. Caïn, il n'avait pas réalisé qu'il était le gardien de son frère. Donc quand son frère, il a fait quelque chose qui lui était désagréable, au lieu de dire « c'est mon petit frère, je vais l'aider », il a tué. Donc si tu ne réalises pas que tu es le gardien de ton frère, tu risques d'en devenir le meurtrier. Amen. Parce que tu auras toujours quelqu'un qui fera quelque chose de désagréable dans l'église. Et spécialement les gens que tu as décidé d'aider. Parce que si tu as décidé de les aider, c'est qu'ils ont besoin d'aide. Et s'ils ont besoin d'aide, c'est qu'ils font des choses désagréables. Amen. C'est logique. Nous sommes appelés à rechercher l'autonomie du plus grand nombre pour une meilleure unité basée sur des identités fortes. Une belle phrase, ça, c'est de moi. Alléluia. Mettre la responsabilité que d'un côté, c'est un non-sens. Il est temps pour chacun de nous d'accepter sa responsabilité personnelle et de l'assumer. Amen. Et je le répète, sans culpabilité. La Bible a à la fois de don de gouvernement, de participation du plus grand nombre, comme on l'a mentionné précédemment. Dans un équilibre est à trouver, l'autorité revient avant tout au pasteur principal dans une église, mais celui-ci doit s'entourer d'anciens, de responsables, de conseillers, dont il doit prendre en considération les avis, les réflexions pour ajuster sa propre vision pour l'église. À commencer par prendre conseil auprès de sa femme ou de son mari s'il est marié. Le nombre de bêtises que j'ai fait parce que j'ai pas écouté ma femme. Un jour, j'ai acheté une voiture, elle n'était pas d'accord. La voiture, elle a brûlé au bout de 3 jours. T'es contente là, ça fait plaisir, je dis ça. Hein. Je la vois, elle sourit là. Amen. Un autre jour, je ne l'ai pas écouté, même je me suis mis en colère. Parce qu'elle me disait, fais attention, fais attention. Je me suis fait escroquer de 500 euros. Maintenant, je l'écoute. Pas toujours, hein. Des fois, elle m'écoute aussi. Amen. C'est un mauvais calcul de penser que Dieu nous parle et on a besoin d'entendre la parole de Dieu de personne d'autre. La parole de Dieu est dans le grand nombre des conseillers aussi. Donc si j'ai un esprit babylonien, je vais à la catastrophe. Parce que Dieu va toujours parler par les autres aussi. Et d'un autre côté, vous ne devez pas être influencé par les autres. Si vous avez une conviction profonde, que quelqu'un vous dit, mais moi je le sens comme ça et comme ça, ben c'est bien beau, mais j'ai réfléchi, je vais réfléchir là-dessus, et je ne sens pas ta conviction, donc je continue à aller dans la voie que je pense être la bonne. Amen. Et parfois, comme moi avec la voiture, on le fait parce qu'on est têtu, tout simplement. Alléluia. Donc nous devons nous entourer de personnes, cela dans plusieurs buts, porter intérêt à chaque avis, à chaque conseil, à chaque idée, à chaque requête, à chaque besoin, à chaque plainte aussi. Les gens ont le droit de se plaindre, alléluia. Vous avez le droit de vous plaindre de moi, de vous plaindre de Jocelyne, de vous plaindre de Bernard, de vous plaindre d'Alain, amen. Tout dépend dans quel état d'esprit vous le faites. Et chacun a le droit, amen, d'exprimer sa pensée dans le bon état d'esprit. Mais allez toujours vous plaindre en priorité à la personne directement concernée, avant de vous plaindre au monde entier. Ouh ! Alors, le système de gouvernement biblique ne se veut être à la fois ni exclusif, donc babylonien, ni collégial, où tout le monde aurait une autorité égale. Parce que une bête avec 2 têtes, ou 3 têtes, ou 4 têtes, c'est un monstre. Et en général, lorsque tout le monde a la même autorité dans une église, ça devient le combat des chefs. C'est pourquoi même dans le couple, Dieu a placé une autorité. Ça ne veut pas dire que cette autorité doit dominer avec tyrannie, alléluia. Mais même dans le couple, il y a une autorité, parce que rien ne peut fonctionner sans autorité. Amen. Les conseillers ont un pouvoir en tant que tel pour aider les choses, et le pasteur garde le droit de décision finale en tant qu'autorité. À Jérusalem, ils ont eu un conseil, ils se sont tous réunis, chacun a donné son avis, alléluia, et la décision finale a été prise par Jacques, qui était à la fois apôtre et pasteur de cette église. Vous me suivez? Mais il a certainement pris sa décision en fonction de tout ce qu'il avait entendu. L'église est aussi multiculturelle, elle est supposée être multiculturelle, elle abolit les conflits de race et de génération. C'est pourquoi il est bon de s'entourer, si possible, de personnes qui représentent un microcosme de l'Église et de la société.
À l'église de La Farlette, après plusieurs années, le corps pastoral qui se réunit, on est 6, toutes les semaines, on a décidé qu'il y ait tous les mois une réunion de ce qu'on appelle un corps pastoral élargi, c'est-à-dire des personnes qui représentent l'ensemble de l'île, comme la société, paline, mais des couples, des vivants couples, des célibataires, des personnes âgées, des jeunes, amen. Donc, il y a des grands-mères, il y a des célibataires, des gens qui ont toutes sortes de boulots. Et si la grand-mère a quelque chose à dire, eh bien, elle dit quelque chose, et si on reçoit que c'est de Dieu, on change ce quelque chose dans l'église. La grand-mère, d'ailleurs, ma belle-mère, ça lui fera plaisir, elle a reçu que ça serait bien de mettre sur les chaises un panneau pour les personnes âgées, pour qu'on ne leur prenne pas les chaises qui sont près du chauffage. Alors la semaine d'après, on a mis un panneau sur les chaises, gloire à Dieu. Et tous ces détails, ça permet le bon fonctionnement du corps. Est-ce que vous me suivez ? De toute façon, chacun de nous est appelé à un moment donné à servir quelqu'un et avoir des gens qui le servent. Donc si tu es toujours dans une position où les gens te servent, il y a un problème. Si tu es toujours dans une position où tu sers quelqu'un sans jamais être servi, il y a un autre problème. C'est-à-dire que le plus grand des apôtres, le plus grand des prophètes, s'il a placé quelqu'un dans le parking de l'église pour faire l'ordre de la circulation, quand il arrive avec sa voiture, il n'a pas à dire, s'il a placé le frère Dédé pour gérer la circulation, il n'a pas à dire, moi je suis le pasteur, je me gare où je veux, à Dédé. Il doit être soumis à Dédé et aller se garer là où Dédé lui dit de se garer. Parce qu'il a placé Dédé, non pas pour être un pantin, avec une autorité. Et lui-même doit respecter l'autorité qu'il a donnée à Dédé, sinon c'est du cinoche son autorité. Et beaucoup de gens, malheureusement, parfois, ils sont frustrés avec l'autorité qu'ils ont parce qu'on les a placés pour être des pantins, non pas pour avoir une vraie autorité. Alors rappelez-vous de ça. Dans votre vie, vous êtes appelé à être à la tête de quelque chose. Donc, vous aurez toujours des gens, quand ils respectent votre vision et votre appel, qui vous seront soumis. Même ceux qui sont au-dessus de vous, dans d'autres sphères d'autorité. Et vous-même, vous serez soumis à d'autres. Et là, ça crée un équilibre. Il y a des moments où vous serez soumis à votre femme. Parce que si elle est plus maligne pour certaines choses, si elle est plus douée pour faire les comptes, par exemple, ça ne sert à rien d'exposer son ego d'homme en disant « C'est moi qui suis l'homme, je fais les comptes !» Tu vas envoyer la famille à la catastrophe. Vous me suivez ? Puisque vous me suivez, on continue. À Babylone, une ethnie domine et asservit, voire fait disparaître les autres. Dans l'église, chaque différence est un parfum qui ajoute un plus. Il faut la différence dans l'église. Amen. Vous avez vu chez les Mormons, les témoins de Jéhovah, vous en voyez un, vous les voyez tous. Dépersonnalisation. Vélo, chemise blanche, pantalon, petite mallette. Parce que le diable fait toujours une œuvre de dépersonnalisation. Qui est-ce qui a créé la nature ? C'est Dieu ou c'est le diable ? C'est Dieu. Et il a créé plein de diversité. Il n'y a pas que des arbres, pas que de l'herbe, il n'y a pas que la couleur verte, plein de formes, de diversité, de couleurs. Et parfois vous rentrez dans une église et ils se ressemblent tous. Vous ne savez plus si vous êtes rentré dans une église ou dans un cimetière. Bon, il y a quelques pierres tombales un peu différentes des autres, mais... Donc, soyez vous-même dans l'église. Ok ? Soyez décent, mais soyez vous-même. Alléluia ! N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu, ayez la coupe de cheveux que vous voulez avoir. Amen ? Ça tirait très mal, une queue de cheval, donc tirez bien comme ça. Alléluia ! N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Vous aimez les couleurs ? Mettez des couleurs. Ça ne plaît pas à quelqu'un, eh bien, de quel droit ça lui plaît pas ? De quel droit ça lui plaît pas comment vous êtes habillé, comment votre femme est habillée ? Alléluia ! Laissez respirer les gens. Il y a certains lieux, tout est interdit sauf de respirer. Et déjà quand ils respirent... Pas trop respirer non plus, un peu, juste pour rester en vie.
Oh, Dieu m'a libéré. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus l'a franchi.
Oh. Amen.
Oh, Jésus l'a franchi. C'est pas pour que je sois un pasteur classique, alléluia, pour que je sois moi. Ouh. Qu'est-ce qui a franchi ici? Voilà. Ouh. Alors c'est bien beau les schémas, les modèles qu'on a eus, gardons le bon, mais il y a toute une catégorie. Moi j'ai refait ce que j'avais eu pendant des années, il y avait quelque chose au fond de moi qui disait, mais t'es tout sauf ça.
Dans Babylone, on perd son identité. Babylone est symbolisée par la construction de la tour de Babel. Le peuple est amené à construire pour un même objectif, mais dans un mouvement tyrannique. On construit donc en perdant son identité pour l'intérêt de l'identité du leader. Dans le cadre de l'œuvre Souffle Nouveau, je tiens de plus en plus à ce que chaque église ait une originalité du cru, si je peux dire. Toute église est libre d'exprimer son identité. L'uniformité n'est nullement encouragée, bien au contraire. Certaines églises sont à l'origine de l'œuvre et ont été appelées Centre Chrétien Souffle Nouveau, mais à la rigueur, pourquoi pas changer de nom et prendre chacun un nom personnel que Dieu nous a donné? Ou même si on garde ce nom comme appellation générale, eh bien, on peut trouver un nom particulier que Dieu nous a donné à nous. Est-ce que quand on parvient à maturité, finalement, on a encore besoin de toutes ces choses-là? On peut créer des liens avec des gens beaucoup plus profonds, parce que ce sont des liens qui ne sont pas bâtis sur des liens d'organisation. Ils sont bâtis sur des liens spirituels. Parce qu'on ne se sent pas servi par quelqu'un, on a envie d'être avec lui, on a envie d'être avec eux. Amen. Le mari est le chef de la femme, d'accord, mais il n'y a pas une femme plus soumise que celle qui est libérée par son mari. Alléluia. Il n'y a pas de serviteur plus soumis que celui qui sert par amour. Et pas parce qu'il n'a pas d'autre choix. Et vous avez des gens, ils sont dans des églises, ils sont oppressés dans des systèmes babyloniens, ils se cassent, ils se lèvent, ils travaillent comme des fous. Et un jour, ils sont libérés, ils viennent dans une église, on les accepte tels qu'ils sont, on leur donne des responsabilités, et ils ne font pas le dixième de ce qu'ils faisaient quand ils étaient asservis. Vous avez remarqué ça? Esclaves, ils se donnaient à fond pour Dieu. Libres, ils ne se bougent plus. Comme c'est bizarre. Pourtant, quelqu'un qui marche dans la liberté, dans l'amour, devrait produire plus de travail que quelqu'un qui est esclave. Vous me suivez là? Ouh. Vous savez, lorsque des églises sont trop dépendantes d'une œuvre, qu'est-ce que je fais? Je me saborde là? Non, Dieu m'a montré de partir dans la direction à l'opposé dans laquelle sont parties beaucoup de dénominations. On a même levé l'appellation fédération. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce qui est arrivé à beaucoup de gens comme ça. J'ai vu ce qui est arrivé à beaucoup de revivalistes dont on lit les merveilleux témoignages aujourd'hui. Lisez jusqu'au bout beaucoup de témoignages. Voyez que beaucoup ont fini dans la dépression. Pour certains, le réveil il a duré 3 ans et ils se sont tapés 20 ans de dépression après. Et ça, on ne le sait pas. Parce qu'ils ont été broyés par le système qu'ils ont mis en place. Ils ont guéri des milliers de malades, ils sont morts dans la maladie. Eh bien, je me suis dit, je ne veux pas être broyé de la même façon. Alors Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et les intérêts de Dieu n'iront jamais dans le sens de l'intérêt de l'ego. Les intérêts de Dieu n'iront jamais dans le sens de mes intérêts, de tes intérêts charnels. Vous recevez quelque chose ce matin? Alléluia. Lorsque des églises sont trop dépendantes d'une œuvre ou d'un ministère, lorsqu'elles ont du succès, c'est l'œuvre et le ministère qui en tirent la gloire. On va dire, ouais, ils ont fait ça, finalement, c'est grâce à moi. Et quand ils font des bêtises, c'est l'œuvre et le ministère qui emportent les conséquences comme si c'était sa faute à lui. Il a été commis
tel adultère à tel endroit, ben c'est la faute de l'apôtre ou c'est la faute du responsable. Est-ce que vous me suivez? Mais quand chacun assume pleinement son identité, chacun reçoit la gloire qui lui revient et personne ne la lui vole, et chacun assume ses échecs sans que personne d'autre les porte.
Amen.
On va terminer. Dans chaque église, chaque groupe, maison, qui que vous soyez ici, dans quelque contexte que vous évoluez, n'hésitez pas à vous concerter avec d'autres si vous avez des responsabilités pour comprendre le plan de Dieu pour votre église à vous. Ce qui est bon pour les uns est mauvais pour les autres. Dieu va montrer à une église un plan pour toucher sa ville. L'autre église dans l'autre ville va faire la même chose et ça va échouer. Parce que chacun doit recevoir sa propre direction de la part de Dieu. N'essayez pas de refaire ce qui marche pour moi, faites ce que Dieu vous montre pour vous. Amen. Même dans votre couple, même s'il y a des schémas généraux, moi j'ai un équilibre particulier avec mon épouse, et bien si vous essayez de faire la même chose, vous allez à la catastrophe. Vous devez trouver votre équilibre propre dans votre couple. Il y a des gens, parfois, ils voudraient que tous les gens fassent la même chose de la même façon. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'équilibre, ça ne tient pas grand-chose des fois. Et ce n'est pas grand-chose, il y a seulement le Seigneur qui peut te le donner. Ce n'est pas grand-chose, il tient du miracle. Il ne tient pas au fait que tu te lèves tous les matins et tu achètes un bouquet de fleurs à ton épouse. Ce n'est pas ça qui va changer le cours des choses. Ce qui n'empêche pas que si tu as à cœur de le faire, ce n'est pas mauvais en soi. Amen. Mais si tu comptes là-dessus pour que ça change, ça ne changera rien. Là, tu es en train de mettre en place des méthodes. Alléluia. Tu dois trouver ce fil personnel, ce joint personnel. Amen. Pour les babacools spécialement. Que seul Dieu peut te donner. Hein, tu as souri au mot joint, toi. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a les joints du monde et il y a les joints de Dieu. Alléluia. Au même point qu'il y a les liens de ce monde et il y a les liens du Saint-Esprit. Cela, ce n'est pas des liens qui nous ont été imposés. C'est des liens qu'on a choisi de porter. Alléluia. Et d'autres parce que notre destinée est toujours liée à la destinée d'autres. Amen. Je suis très indépendant au départ, mais j'ai dû apprendre certaines leçons et j'en apprends encore. Je suis obligé de travailler avec d'autres. Pas le choix, désolé. Dans un des points de vision aussi, dans le cadre de l'œuvre Souffle-nous, qu'on a travaillé à réformer et qu'on continue à réformer, et que diverses expressions doivent être représentées, tant au niveau des formes de réunion que des sujets, que des ministères.